on commence ce journal avec la première carte moléculaire du striatum.
Le striatum, c'est la partie intérieure du cerveau qui régule notamment la motivation et les impulsions. C'est probablement la zone cérébrale la plus importante pour la prise de décision et elle tient aussi un rôle clé dans les phénomènes d'addiction. Dans cette étude parue dans la revue Cell Reports, une équipe suédoise a utilisé chez la souris le séquençage d'ARN à noyau unique pour créer cette carte. Cette carte moléculaire en 3D fait apparaître les cellules nerveuses ciblées par les opioïdes, comme la morphine ou l'héroïne, et montre comment ces cellules nerveuses sont organisées en différentes sous-régions. Pour approfondir notre compréhension du système de récompense du cerveau, c'est une première. On va pouvoir commencer à analyser la fonction de différents types de cellules nerveuses dans différentes zones moléculaires. Glenn Dalayrac est neurophysiologiste à l'Institut des neurosciences Paris-Saclay.
Traditionnellement, il y a deux types de zones qui sont définies dans cette région, qui s'appellent les striosomes, qu'on peut appeler aussi patch. Et ces striosomes, en fait, ils sont définis par l'expression de certains marqueurs moléculaires par les neurones, notamment les récepteurs opioïdes, mu, et le récepteur à la dopamine, D1. Et la matrice, en fait, c'est la même chose. Il y a d'autres marqueurs moléculaires qui sont exprimés, et notamment le récepteur à la dopamine D2. Mais ces différentes zones sont définies comme ça, de manière binaire. Et avec cette nouvelle étude, en fait, les auteurs indiquent en fait que un code peut être mis en place grâce à des marqueurs moléculaires. Certains marqueurs moléculaires vont coder pour un domaine spatial, c'est-à-dire une localisation de la cellule dans l'espace. D'autres marqueurs vont pouvoir coder pour quel type de neurone on a affaire et d'autres marqueurs vont pouvoir coder sur cette histoire de patch et donc de striosome et de matrice dont je parlais tout à l'heure. Grâce à ces trois types de marqueurs différents, chaque neurone dans cette région cérébrale va pouvoir avoir sa fonction et sa localisation de déterminer. C'est ce que propose ici cette étude. Donc en réalité, ça affine et complexifie en quelque sorte le code de la circuiterie qui était connu dans cette région du cerveau. Ça ne devient plus simplement un code moléculaire, mais un code spatio-moléculaire.
Et on passe au bref. La NASA présente les images les plus détaillées de notre ionosphère.
Des cartes postales du bord de l'espace, pour reprendre l'expression de la NASA. L'ionosphère, c'est la couche atmosphérique supérieure et elle est particulièrement complexe. Les gaz de l'atmosphère terrestre interagissent avec les rayons cosmiques et les vents solaires, où l'on observe une ionisation de ces gaz. Ici, ce sont les données de deux missions de l'agence, celle du satellite GOLD et du satellite ICON. Et des observations surprennent les géophysiciens. Lorsqu'une tempête solaire frappe la Terre, par exemple, l'oxygène atomique devient plus rare aux hautes latitudes et se développe aux basses latitudes. Tandis que l'azote fait l'inverse, l'azote se densifie aux hautes latitudes et se raréfie aux basses latitudes.
Selon une étude parue dans PLOS ONE, en 2100, les besoins caloriques de la population mondiale vont augmenter de 80%.
Et c'est la conclusion d'une équipe allemande. Elle s'appuie sur des études récentes qui montrent que la croissance démographique va entraîner une augmentation massive de la demande mondiale de nourriture. Des chiffres auxquels il faut ajouter l'augmentation du poids humain lié à la croissance de l'IMC et de la taille de l'ensemble de la population. En cas d'échec d'une politique alimentaire mondiale, je cite ce rapport, cette augmentation de la demande de nourriture aura pour effet d'exacerber les inégalités alimentaires.
Et enfin, des chercheurs canadiens viennent de découvrir les plus vieilles preuves fossiles du comportement parental chez les animaux.
Et ils ont découvert sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, deux squelettes de varinadés, proches du varan. Un adulte et un petit, tous les deux vieux de 310 millions d'années. Le fossile adulte semble être dans une posture protectrice. Derrière sa patte arrière, et encerclé par sa queue, se trouve un petit crâne. Les détails en sont à retrouver dans leur revue Nature Ecology & Evolution, mais cette découverte est une preuve supplémentaire que les soins parentaux sont arrivés tôt dans l'histoire évolutive du vivant.
Merci beaucoup Natacha Triou, on vous retrouve demain pour le Journal des Sciences.